Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La France dit suivre de très près la situation de Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien dont la détention administrative a été renouvelée le mois dernier par Israël. Le déplacement dimanche et lundi prochain de la première ministre française en Algérie, la jeunesse des deux pays sera au menu du comité intergouvernemental de haut niveau. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le soulèvement populaire en Iran, Paris annonce travailler avec l'Union européenne à l'adoption de sanctions à l'encontre de responsables de la répression. Une révolte populaire après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation pour un voile jugé mal porté. Nous y reviendrons avec l'auteur française d'origine iranienne, Maral Kianpour. Le Maroc vise à augmenter le volume des échanges avec l'Arabie Saoudite à 5 milliards de dollars pour les 5 années à venir. Une ambition formulée par le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. Le président russe a signé la loi d'annexion de 4 régions ukrainiennes ainsi que les décrets nommant formellement à leur tête leurs dirigeants. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Françoise Fitté, membre du Conseil national du Parti communiste. Elle réagit notamment au projet de loi sur le travail voulu par Emmanuel Macron, extrait dans votre édition. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères affirme suivre de très près la situation de Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien dont la détention administrative a été renouvelée par Israël en septembre dernier pour 4 mois. Paris, par la voix du Quai d'Orsay, fait part de sa mobilisation pour que ses droits soient respectés, qu'il bénéficie de toutes les voies de recours et qu'il puisse être libéré aussitôt que possible. La France affirme que Salah Hamouri doit pouvoir être libéré et doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem où il est né et où il réside et que son épouse et ses enfants doivent pouvoir s'y rendre pour le retrouver. Elisabeth Borne, attendue à Alger avec 16 ministres, un déplacement dimanche et lundi prochain. Il s'agira de continuer de ressouder les liens entre la France et l'Algérie et de concrétiser avec son homologue algérien le partenariat conclu entre les présidents des deux pays en août dernier. La jeunesse des deux pays sera au menu du comité intergouvernemental de haut niveau. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, nous fait part de l'intérêt que porte la jeunesse à la question mémorielle.
C'est vrai qu'on a tendance à entendre certains experts en France ou certains historiens ou certains pseudo-spécialistes de l'Algérie dire que les jeunes se détournent de la question mémorielle, ne sont pas intéressés. Non, ce n'est pas vrai parce que ce que nous constatons dans les conférences, dans les débats, lors du Salon du Livre, lors des projections du film en rapport avec l'histoire, l'Algérie célèbre le 60e anniversaire du recouvrement de sa souveraineté parce que l'Algérie existait bel et bien avant la colonisation française qui était une colonisation de peuplement qui a commis beaucoup de massacres, qui a eu des pillages, qui a eu des destructions de biens, de dépossessions. Tout cela est bien mentionné dans les manuels scolaires en Algérie, dans les livres on vante en Algérie. Et la jeunesse algérienne dit souvent que oui, elle s'attache à l'héritage des ancêtres, elle suit un peu ce qui se passe surtout ces derniers temps. Et on a vu comment les Algériens, notamment les jeunes, ont réagi après les déclarations du président Macron, en septembre 2021, lorsqu'il a douté de l'existence de la nation algérienne, parce qu'avant 1830, ces questionnements sont toujours dans le débat. Et la jeunesse algérienne, oui, elle est fière du passé de ses ancêtres et évidemment, elle veut s'ouvrir sur le monde. Elle veut avoir des partenariats, des programmes de formation, des échanges universitaires, des échanges touristiques, pourquoi pas. C'est très difficile pour les jeunes Algériens d'avoir un visa touristique en France, il faut le noter au passage. Mais disons que cette question intéresse toujours la jeunesse algérienne.
Faisal Metaoui, est-ce que vous pouvez nous faire part du rôle des Algériens de France dans l'économie algérienne?
Oui, pendant longtemps, la diaspora algérienne, il y a beaucoup d'Algériens à travers le monde, pas uniquement en France, notamment au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine, plus récemment en Indonésie aussi, dans les pays arabes comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Les Algériens de France se détournaient, n'étaient pas intéressés par des projets d'investissement en Algérie. Et oui, les récentes visites du président Abdelmadjid Tebboune, qui s'est rendu notamment en Turquie, il a visité la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et d'autres pays, il a, dans tous ces pays réunis, les Algériens établis dans ces pays, il les a invités à venir investir en Algérie, à créer des projets dans tous les domaines, notamment dans les domaines du numérique, du digital, etc. Et l'appel est aussi lancé pour les Algériens qui vivent en France pour créer des nouveaux ponts. Cela est mentionné ici dans la déclaration entre l'Algérie et la France pour qu'il y ait des investissements d'Algériens avec des aides accordées par les deux États, c'est-à-dire l'État français et l'État algérien. Donc pour qu'il y ait des projets dans les domaines aussi. L'Algérie demande beaucoup de projets dans les domaines agricoles, dans les domaines domaine de la formation aux nouvelles techniques, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, de l'intelligence artificielle, des petits projets ou des grands projets. Et ce rôle, effectivement, est très souhaité du côté algérien, puisque l'Algérie et la diaspora algérienne est parmi les rares au monde aussi à ne pas avoir suffisamment de projets ou de facilitations dans le pays d'origine.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le Maroc vise à augmenter le volume des échanges avec l'Arabie Saoudite à 5 milliards de dollars pour les 5 années à venir, ambition formulée par le ministre marocain de l'industrie et du commerce. Riyad Mezour s'exprimait lors du forum économique Maroc-Arabie Saoudite organisé par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et la Fédération des Chambres Saoudiennes. Après plusieurs semaines de manifestations en Iran, la vive contestation continue. Mouvement déclenché par la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Paris annonce travailler avec l'Union Européenne à l'adoption de sanctions à l'encontre de responsables de la répression des manifestants. Gros plan sur cette révolte populaire avec l'auteure française d'origine iranienne, Maral Kianpour.
C'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur comme étant venu de nulle part, mais c'est un peu, si vous voulez, comme l'étincelle qui couvait sous la flamme. Il y a un très vieux proverbe iranien qui dit quelque chose du type « sous la cendre couve la flamme ». Et ben, pour moi, Mahsa Amini a vraiment été l'étincelle, en fait. Elle a été la flamme sous cette cendre. Mais il y avait des signes avant-coureurs. En fait, elle est devenue une martyre sans le vouloir, sans le chercher. Elle venait juste passer quelques jours de vacances dans la capitale avant d'aller reprendre ses études. Mais sa mort, effectivement, a entraîné tout ce qui se passe là depuis 19 jours. Mais il faut savoir que ça vient... C'est quand même beaucoup plus profond que ça. Il y a de grands soucis économiques en Iran. Il y a de grands soucis politiques aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressentiment de la population depuis pas mal d'années. Et on assiste peut-être aujourd'hui à ce qui n'a pas réussi à aller beaucoup plus loin lors des révoltes précédentes. Mais ce n'est vraiment pas qu'une histoire de voile, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Ça va être à la fois un problème de non-représentation politique, parce qu'il y a des gens qui sont non légitimes et extrêmement âgés qui gouvernent en Iran, là où la population est plutôt jeune. Il y a des manifestants, qui crient à bas le dictateur, donc cela veut bien dire qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans leurs dirigeants. C'est aussi un problème sociétal parce qu'avec l'absolue non-égalité homme-femme, donc avec la charia, très simplement, la femme vaut la moitié d'un homme. Et il y a également un problème économique catastrophique avec un taux de chômage qui est important, une inflation galopante, je crois, de l'ordre supérieur à 40% sur une année, il me semble. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'était une énorme surprise, mais la mort de Mahsa Amini a été vraiment l'étincelle.
Et vous le soulignez, la crise économique participe au développement de l'ampleur de la contestation.
Tout à fait. Alors, par exemple, moi, ça ne m'a pas vraiment étonné finalement que ce soit les femmes qui soient au début en première ligne de ces manifestations. Alors déjà, elles souffrent économiquement, mais en plus, de façon plus pragmatique, quand elles sortent dans la rue, elles ont cette chape de plomb qui s'abat sur elles. Donc, par exemple, si je veux voir du côté de la famille de mon père, il y a des hommes iraniens qui doivent cumuler 2 voire 3 emplois différents dans la journée pour pouvoir faire vivre leur famille. Ils sont tellement épuisés qu'ils s'écroulent en fait en rentrant chez eux. Par contre, les femmes vont faire leurs courses, n'arrivent pas à remplir leur caddie avec une inflation qui est énorme. Donc toute la rage, la colère qu'elles ont ravalée en elles depuis un moment, avec en plus le fait qu'on vous arrête à chaque coin de rue pour vous demander de bien remettre votre voile, moi ça me semble normal que les femmes explosent actuellement.
Ces manifestations auxquelles participent également les hommes.
Tout à fait, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'image un peu du macho oriental, bon... C'est pas du tout vrai en Iran. Hein. Enfin, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui se mélangent beaucoup. Ils trouvent des moyens en fait de se voir, de se retrouver. Donc, les hommes de toute façon, oui, effectivement, sont tout à fait dans toutes ces manifestations-là. Donc, effectivement, oui, les hommes sont tout à fait présents. Oui.
L'Iran, qui est un pays particulièrement vaste, ce pays est-il connu à sa juste valeur, selon vous, notamment en France?
C'est vrai que. Je pense que depuis la révolution islamique, on ne parle que de l'islam intégriste, de l'islam politique. En fait, l'année 79, ça a vraiment été le tournant dans l'islam politique parce que on a vu apparaître cette façon de remettre l'islam au centre, en fait, d'un système politique, là où pourtant les gens réclamaient un système républicain. Donc, en fait, le chat a été chassé parce que c'était une révolte des gens, une révolte... Voilà, tout le monde voulait un système plus juste, plus égalitaire, et au final, bon, ça a été mille fois pire. Et je pense que malheureusement, ce que les gens gardent encore aujourd'hui cette image de l'Iran, c'est que c'est un milieu extrêmement intégriste, extrêmement dur. Mais en fait, la civilisation perse est quand même très, très ancienne. et repose sur des influences qui sont certes l'islam, mais il y a aussi toutes ces influences zoroastriennes, très anciennes, pré-islamiques, qui continuent de rythmer la vie quotidienne des Iraniens aujourd'hui.
Vous mettez en lumière l'aspect historique, cela aussi, cela doit être souligné.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un vieil empire, donc les Iraniens d'aujourd'hui sont vraiment attachés en fait au fait d'appartenir à quelque chose de grand. Ensuite, ce qui a vraiment été un traumatisme de toute une génération, c'est aussi cette guerre Iran-Irak. Cette guerre Iran-Irak où il y a eu des millions de morts, où des jeunes garçons ont été envoyés comme chair à canon sur les champs de mines. Mais il faut savoir quand même que la génération qui défile actuellement sont plutôt des jeunes qui n'ont pas connu en fait cette guerre Iran-Irak. Donc c'est une jeunesse qui ne comprend pas vraiment les restrictions qu'on lui impose. Parce que si ces restrictions pouvaient être considérées comme secondaires ou peut-être même nécessaires comme un effort de guerre à l'époque de la guerre, quand il y avait des bombes qui survolaient Téhéran sur toute la décennie des années 80, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc la guerre s'est terminée il y a plus de 30 ans et donc une bonne moitié des Iraniens aujourd'hui ne l'a pas connue directement.
Quel regard portez-vous sur la mobilisation internationale face à la répression des manifestations en Iran ?
Moi, de ce que je comprends, c'est que ça compte. Enfin, les Iraniens sont quand même heureux de voir qu'ils ne sont pas complètement isolés du monde. Ça, c'est quelque chose dont la jeunesse iranienne souffre beaucoup. Parce qu'il faut savoir que le réseau Internet là-bas est vraiment... En fait, là, en ce moment, en plus, il est coupé à chaque manifestation, de toute façon, que ce soit le réseau Internet ou le réseau mobile est coupé par les autorités. Donc, les gens se retrouvent isolés, en fait, du monde extérieur. Donc, le fait de savoir qu'à Paris, qu'à Londres, qu'à Los Angeles, que partout, effectivement, à Kaboul aussi, les femmes, les hommes se lèvent et essayent, à leur échelle, de faire quelque chose... Même si c'est très peu, mais ça compte énormément parce qu'on se sent moins seul, on se sent appartenir au monde en fait. L'Iran est tellement isolé en fait géopolitiquement qu'effectivement pour les Iraniens, c'est un signal très fort.
Vous l'avez dit, hein, à Kaboul également, le pays oui. qui vit sous le régime des talibans, et bien dans ce pays, des femmes afghanes ont eu le courage de manifester.
Tout à fait. Et pour elles, c'est aussi dangereux que pour les Iraniennes. Donc là encore, de voir que des femmes qui ont encore moins de droits que des Iraniennes osent sortir, manifester, et souvent à visage découvert en plus. Donc c'est des signaux effectivement très très forts.
Comment appréciez-vous la réaction des autorités ? Est-ce une réaction qui vous surprend ou alors une réaction à laquelle vous vous attendiez ?
C'est vrai que c'est un régime qui est dur, donc il ne sait répondre malheureusement que par la violence. C'est un régime qui n'a jamais su se réformer. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant certaines périodes de l'Iran, depuis les années 80, il y a eu alternance conservateur, réformateur, enfin modéré on va dire. Mais au final, ça n'a pas vraiment changé les choses dans la vie des gens. Donc ça ne m'étonne pas en fait vraiment qu'ils utilisent la violence pour essayer de continuer à gouverner. Mais il faut savoir que là, la contestation ne va qu'en s'amplifiant en fait. Elle diminue pas du tout. Autrefois, quand il y avait des révoltes dans une université par exemple, la police arrivait, délogeait tous les étudiants, les mettait en prison et ça s'arrêtait là. Là, en fait, ils ont beau arrêter les étudiants dans une université, et ben, ça sera une autre université, deux autres universités, trois autres universités qui vont s'y mettre. Là, actuellement, c'est même les lycées, apparemment les lycéennes, les lycéens qui commencent à manifester. Donc ça s'étend en fait, ça s'étend vraiment beaucoup. En plus, les témoignages que j'ai pu avoir, c'est que vraiment les gens veulent vraiment en fait que ça change. Il n'y a pas de retour en fait. Donc j'espère que vraiment, je sais pas, il faudrait que la police, l'armée déposent les armes et permettent aux gens de pouvoir accéder aux instances politiques. Parce que là, je ne vois pas comment on va s'en sortir, à moins que ça finisse dans un bain de sang, ce que je n'espère pas du tout, mais voilà.
Et c'est un mouvement qui est notamment porté par la jeunesse. Vous avez fait référence aux étudiants et aux manifestations, notamment dans les universités.
Bah, c'est vrai que pour les jeunes, c'est encore pire. Bon, c'est vrai que partout dans le monde, la jeunesse se vit dans la rébellion, dans l'opposition à la génération précédente. Donc il est finalement tout à fait logique qu'on soit dans un système qui est aussi autoritaire, les jeunes soient naturellement portés à vouloir remettre en cause les règles établies. Mais pour les filles, par exemple, comme elles sont tenues à s'habiller de façon extrêmement couverte, elles en rajoutent par exemple beaucoup sur leur visage. Elles se servent de leur visage pour exprimer une forme de liberté. Ça va être leur acte de révolution quotidien avant de sortir dans la rue. Elles vont se mettre du rouge à lèvres très vif, foncer leurs yeux avec beaucoup de colle, faire des mèches de toutes les couleurs. C'est vrai que ça peut paraître futile en Occident, mais quand on risque la prison, la matraque ou même la mort pour un voile mal porté, On se rend vraiment compte que se maquiller en Iran, par exemple, ce n'est pas du tout futile.
L'écrivaine Maral Kianpour, son dernier roman, Aux portes du paradis, aux éditions Éric Bonnier. Le gouvernement éthiopien accepte une invitation de l'Union africaine pour participer à des pourparlers de paix. Des discussions avec les rebelles de la région du Tigré, la date et le lieu n'ont pas été annoncées. Vladimir Poutine a signé la loi d'annexion de 4 régions ukrainiennes, ainsi que les décrets nommant formellement à leur tête leurs dirigeants. Les textes signés par le président russe stipulent que ces régions sont acceptés au sein de la Fédération de Russie en conformité avec la Constitution. Moscou justifie l'annexion de ces territoires par les référendums organisés la semaine dernière par les autorités pro-russes dans leur partie occupée. Référendum dont les résultats n'ont pas été reconnus par la communauté internationale. L'Assemblée générale de l'ONU se réunira lundi prochain pour une nouvelle réunion d'urgence sur la situation en Ukraine. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Françoise Fité, conseillère départementale du canton de Perpignan 3, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, membre du conseil national du Parti communiste. Elle réagit notamment au texte discuté par les députés, un projet de loi sur le travail voulu par Emmanuel Macron. Il s'agit de réduire l'indemnisation des chômeurs quand le marché du travail se porte bien. Françoise Fité.
C'est une réforme qui en suit une précédente et qui a déjà diminué les droits des privés d'emploi. Qui a augmenté les freins pour accéder à ces droits. Et bon, c'est un projet qui, encore une fois, cible dans le sens de la stigmatisation les privés d'emploi, comme si c'était une situation dans laquelle ils se complaisaient. Et donc les mesures qui ont aggravé l'accès aux droits seraient encore plus aggravées puisqu'il est question de modulation des droits en fonction de la conjoncture. Il s'agit d'un changement profond dans la philosophie de l'assurance chômage, à la base de l'assurance chômage, qui est financée par des cotisations, ça relève de la protection sociale. Or, il y a une volonté de l'étatiser de la part du gouvernement, d'en faire un levier c'est pour propre politique sociale, quoi. Donc, c'est vraiment une très, très mauvaise loi qu'il faut combattre, qui s'en prend. Encore une fois, à des acquis, à des conquis importants qui, jusqu'à maintenant, alors il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'assurance chômage, mais protéger plus ou moins les personnes qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvaient sans emploi.
Françoise Fité, conseillère départementale du canton de Perpignan 3, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, membre du conseil national du Parti communiste, elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Le campement de Forceval dans le nord-est de Paris a été démantelé ce mercredi. Il rassemblait depuis un an une centaine de consommateurs de crack. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.